Le festival des expositions réalisées par des apprentis du master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'hôtel de Guine d'Arras autour de 13 mini-expos qui font appel à la curiosité avec des thématiques d'actualité ou de société, qu'elles soient écologiques, instructives, en rapport avec le vivant, mais en alertant, en sensibilisant ou en faisant comprendre le pourquoi du comment au public dans un but ludique. Je vous propose un panel de 3 expositions expliquées par les étudiantes qui les ont réalisées. On parlera de la consommation du sucre et de ses dérives avec Olympe. On parlera de poivre également en compagnie de Margot. Et puis on sera aussi dans un bureau de vote un peu spécial avec Raphaël. Olympe, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, toi tu nous proposes une exposition sur le sucre. D'ailleurs, il y en a partout. Et je pense que, de toute façon, le thème de ton expo, c'est que le sucre est partout. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as conçu cette exposition et qu'est-ce que tu veux justement dire au public?
Effectivement, l'objectif de cette exposition, c'est de montrer l'omniprésence du sucre dans notre alimentation. Parce qu'en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre dans les petits pois, la pizza, les sauces, qui sont à première vue des aliments qui paraissent salés. Mais en fait, pour des questions de conservation, de texture ou même de goût, les industriels en disséminent un peu partout dans nos assiettes. Et j'ai été très interpellée par le fait qu'il y a 80% des produits vendus en supermarché qui contiennent du sucre. Et on est dans une évolution croissante des problèmes de poids. Et aujourd'hui, en France, il y a un adulte sur deux qui est en surpoids. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui m'ont pas mal interpellée et qui, du coup, m'ont amenée à concevoir cette exposition pour sensibiliser sur la question de l'alimentation, pour orienter davantage sur le fait maison, parce qu'on a tendance à davantage quantifier ce qu'on met dans nos assiettes, à l'inverse des plats préparés où finalement on n'est pas trop au courant de la composition de tout ça et ça reste une description scientifique assez obscure. Donc j'avais vraiment à cœur de développer cette exposition plutôt pour le jeune public, hein, plutôt les 12-25 ans qui sont du coup des gens encore en pleine croissance et dont les habitudes alimentaires ne sont pas encore fixées et qui...
Et qui ont une conception justement de l'alimentation qui... Ils ne pensent pas, oh non, mais ça c'est salé, je pense, il n'y a pas de sucre dedans, parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi l'habitude, et c'est ça que je voulais te poser comme question également, de décrypter un petit peu ce qu'il y a dans ces compositions. Est-ce que tout le monde joue le jeu dans les grandes surfaces, dans les grandes, on va dire, entreprises qui font des produits préparés, parce que c'est pas évident à lire, et on peut pas passer son temps non plus en faisant ses courses à lire tout ce qu'il y a décrit pour savoir si, ah mince, il y a du sucre, j'en prends pas, etc. etc.
Effectivement, il y a beaucoup de vices un peu cachés dans l'alimentation aussi, parce que c'est derrière toute une industrie qui génère des milliards et des milliards de dollars par an. L'objectif de cette exposition, c'était de limiter la quantité de texte et qu'en fait tout le contenu scientifique, qui effectivement est un peu barbant, puisse être compris à travers des manipulations où du coup les gens viennent s'approprier à travers des objets du quotidien, enfin des aliments qu'on voit tous les jours, qui viennent un peu analyser leur propre alimentation. Tout seul ou à plusieurs, parce que je pense que les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui se change vraiment en groupe. Sinon, on est un peu le relou de la soirée qui mange pas ci, qui mange pas ça. Donc je pense que c'est vraiment une prise de conscience générale qui doit être faite.
On sait que les étudiants, évidemment, ils ont pas beaucoup d'argent. Ils essayent de se nourrir, évidemment, comme tout le monde. Mais en même temps, je pense qu'ils n'ont pas vraiment conscience du taux de sucre qu'ils peuvent ingurgiter, même s'ils pensent faire un bon repas équilibré.
Oui, c'est vrai, il y a des questions effectivement budgétaires, même si j'ai tendance à penser que le fait maison, c'est beaucoup de temps. Mais en termes de quantité, quand on cuisine en grande quantité, on a tendance à du coup rentabiliser les kilos de pâtes qu'on peut avoir chez soi. Et à effectivement savoir ce qu'il y a dans nos assiettes, à l'inverse des plats tout faits ou des produits ultra transformés qu'on peut trouver en supermarché, à des prix qui sont finalement pas si abordables que ça, au vu de la composition de ces éléments.
Alors, on va pas citer les marques, mais je vois, moi, la soupe, Alors, il y a du sucre dans la soupe.
Oui, il y a 3% de sucre dans la soupe, parce qu'il y a ce côté aussi onctueux, ce côté un peu sucré qui nous donne envie d'en manger davantage. Mm-hmm. Effectivement, dans les produits qu'on retrouve ici, il y a également les bonbons, qui, on sait, sont sucrés à l'origine, mais après, il y a tout ce business qui fait qu'on mange des bonbons, on sait qu'on en a mangé beaucoup, mais en fait, on en veut encore. Et tout ça, c'est un nom, hein, ça s'appelle l'apogée gustative. Donc, les industriels ont bien conscience de la quantité de sucre maximale qu'il faut ajouter avant d'arriver à l'écœurement, mais pour qu'on en veuille encore. Et dans toute cette logique vraiment de vente, on sait que le cerveau est glucodépendant, hein, il a besoin du sucre pour survivre. Le sucre, c'est quand même la seule façon pour le corps d'avoir de l'énergie. Donc le but de cette exposition, c'est aussi d'interroger comment manger du sucre, à quel moment en manger quoi manger en fait, qu'est-ce qui finalement est le moins pire dans notre alimentation.
Alors je vois là, il y a un pot, il y a du sucre dans la mayonnaise, alors ça j'apprends quelque chose.
Oui, c'est la grande particularité des sauces qui contiennent du coup un peu de sucre, parce qu'elles ont ce côté onctueux et ça rajoute dans les plats une texture en fait que les gens ont tendance à apprécier. Le miel aussi est très présent dans beaucoup de plats, notamment pour les grands chefs. Bon, le miel a la particularité d'être un sucre naturel avec beaucoup de propriétés nutritives intéressantes pour le corps, à l'inverse du sucre où on a tendance à effectivement en avoir partout. On parle réellement d'addiction au sucre. Cette exposition, elle développe d'ailleurs tout un langage autour de l'addiction, reconnaître une overdose, le narco-business. Là-bas, on a un point de deal. Donc l'objectif pour moi, c'était de manière ludique, en fait, de vraiment venir interroger la consommation des gens.
Alors, il y a des œufs également.
Oui.
Alors, tu vas pas me dire qu'il y a du sucre dans les œufs quand même.
Non, effectivement, le dispositif qu'on a sous les yeux, l'objectif, c'était un peu d'éplucher la recette, la composition d'une madeleine faite maison comparée à une madeleine industrielle, où on voit qu'en fait, dans la madeleine industrielle, il y a plus de sucre parce que le prix du sucre au kilo est moins cher que la farine. Donc, ça amène un produit qui a exactement la même taille, mais dont la composition évolue.
Et puis il y a du miel aussi, alors normalement le miel c'est du sucre naturel.
Oui, c'est ça, je voulais vraiment amener les gens à venir se questionner sur ce petit carré de sucre qui paraît innocent et qu'on met dans son café, en venant les interroger sur qu'est-ce qu'un sucre raffiné, donc retravaillé industriellement, chimiquement, d'un sucre brut, donc les sucres naturels. Donc j'invite les gens à venir disposer du sirop d'agave, du sirop d'érable, du miel, les petites doses de sucrète stevia qu'on peut trouver en supermarché, et la fameuse dosette à sucre qu'on retrouve dans tous les cafés.
Oui. Là, il y en a plein de la table, hein, de toute façon, donc on ne peut pas se tromper. Et puis, bien sûr, alors moi, j'aime bien ça, là, j'ai pas ouvert, mais conseil pour bien planer, atteindre l'apogée gustative. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, aux auditrices et auditeurs qui ne voient pas justement l'expo, ce que ça raconte?
Alors l'objectif, c'était vraiment de parler de cette quantité de sucre que les industriels mettent dans les ingrédients. Donc l'apogée gustative, c'est cette quantité de sucre qui est ajoutée pour avoir ce goût de sucre. Et la quantité maximale qui est ajoutée dans un produit avant qu'on s'en sente écœuré. Et cette quantité, elle joue vraiment un rôle dans l'addiction au sucre et le fait qu'on en veuille encore, qu'on n'ait pas cette sensation de satiété et qu'on soit prêt à pouvoir en manger sans discontinuité.
Cette expo, donc du coup, tu l'as conçue, mais j'imagine que tu as un rapport peut-être au sucre, voilà. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tout le monde a mangé du sucre à un moment donné sans savoir vraiment? Et comment tu es venu justement à te dire, on va s'interroger quand même là-dessus au travers de cette expo?
Je fais beaucoup de sport et c'est vrai que je me suis rendu compte que sport et nutrition, c'était étroitement lié. Et en m'interrogeant et en m'intéressant surtout à la nutrition, je me suis rendu compte que faire les choses maison, c'est la meilleure façon de répondre à ses besoins à soi, parce qu'il n'y a pas de régime tout fait, il n'y a pas de recette magique. Et du coup, c'est en m'intéressant à ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait être méfiant sur ce qu'on mettait dans notre assiette.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Piper nigrum, et ça parle de poivre. Alors, bah, tu vas nous expliquer un petit peu, c'est quoi ce Piper nigrum?
Alors, Piper nigrum, c'est le nom scientifique.
Ah, c'est nigrum.
Nigrum, c'est ça, c'est du latin. C'est le nom scientifique de l'espèce végétale qui fournit le poivre le plus vendu au monde, c'est le poivre noir. En fait, le Piper nigrum, ce qui est passionnant avec cette espèce végétale, c'est qu'il est à l'origine de la majorité des poivres aujourd'hui que l'on trouve. Par exemple, avec le poivre vert, le poivre rouge, le poivre noir et le poivre blanc, ils sont tous issus de la même espèce végétale.
D'accord.
C'est juste qu'ils sont récoltés à différents stades de maturité du fruit. Et donc, la manière dont ils sont séchés et préparés ensuite, ça donne un arôme différent, puisque les deux composants d'une baie, en fait, la piperine et l'huile essentielle, sont tous les deux présents en différentes quantités selon le stade de maturité. Voilà. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que le Piper nigrum, il est originaire d'Inde. Et en fait, avec les colonisations et les conquêtes de différents endroits du monde, en fait, de la planète, le Piper nigrum a été importé au Brésil, au Cameroun, à Madagascar. Et en fait, avec les différentes latitudes, altitudes, les différents types de sols, etc., ça fait différents poivres avec différents arômes. Mais à l'origine, c'est du Piper nigrum.
D'accord, ok. Donc c'est un peu l'équivalent du café Robusta Arabica, en fait. Tout dépend d'où est-ce qu'il vient et de comment il mature.
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors donc, ce Piper nigrum, alors il y a une question qui est posée on voit là l'affiche, savez-vous réellement ce que vous consommez? Donc c'est une question que je vais te poser. Alors est-ce qu'on sait vraiment quel poivre on consomme et quel est le meilleur, si je puis m'exprimer ainsi?
Ah, je ne saurais pas dire quel est le meilleur parce que je ne suis pas spécialiste du poivre, je suis qu'un médium en fait, des informations que j'ai pu récolter. Alors, savons-nous réellement ce que nous consommons? Pas vraiment. Et en fait, c'est la question que je pose parce que je pars en fait du poivre moulu industriel. Mmh. Voilà. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, puisqu'en soi, c'est que de la poudre. Et justement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Busset, il me semble. Qui explique justement que lui, en tant qu'ancien industriel, il a été dans la position de trafiquer du poivre.
Un lanceur d'alerte, en fait.
Oui, c'est ça. Par exemple, parfois, on peut retrouver des substances de charge. On va dire qu'il y a allez, 75% de poivre moulu dans le poivre industriel et ils vont rajouter des substances de charge pour rendre le produit moins cher. Donc, ils vont rajouter du sel, de l'amidon, peut-être parfois de la poudre de grignon d'olive, dans le pire des cas, du sable, pour essayer de réduire les coûts, mais mélanger, ça ne se sent pas. Ou D'accord. Autre façon de trafiquer un petit peu le poivre, c'est de mettre du poivre épuisé. Donc c'est un petit peu similaire aux marques de café. En fait, c'est le poivre, dans sa transformation en huile essentielle, il y a des résidus. Le résidu issu de cette extraction, ce sont les déchets donc, du poivre, et ces déchets-là sont moulus, et donc en fait, ça fait une poudre qui ressemble au poivre et qui est piquant. Et en fait, quand on le mélange, c'est pas vraiment du poivre, c'est juste des déchets de poivre, mais les commerçants peuvent étiqueter ça 100% poivre. Tout le processus pour faire de l'huile essentielle, en fait, vous avez des grains de poivre ici avec la vapeur d'eau. Le poivre, la vapeur qui s'échappe du poivre va ensuite passer par un tube réfrigéré qui va donner l'huile essentielle.
D'accord.
Et en fait, ce poivre, les déchets qui sont issus de cette étape-là, qui peuvent être comparés en fait à du marc de café, c'est ce qui fait le poivre épuisé qui est ensuite ajouté au
D'accord.
poivre moulu originel.
Et ouais, donc du coup, on nous a trompé un petit peu sur le poivre. Là, tu démontres un petit peu tout ça. Donc, si tu avais des conseils à donner justement pour un bon poivre, quel serait-il ?
Déjà, de consommer du poivre en grain, parce qu'il n'y a pas ces substances de charge-là qui peuvent être cachées. Et ensuite, de faire des expériences avec le poivre en grain qu'on achète. On peut faire plusieurs expériences. On peut mettre le grain de poivre dans de l'eau. S'il est chargé en huile essentielle, il va couler. C'est le principe de la densité. Contrairement aux idées reçues du poivre, ça ne fait pas éternuer. Justement, si ça fait éternuer, c'est qu'il y a quelque chose de pas très net. C'est que le cerveau fait rejeter un élément qu'il considère comme dangereux par l'éternuement.
D'accord.
Alors qu'en fait, quand on sent le poivre, normalement, il n'est pas censé faire éternuer. Mm-hmm. C'est aussi un signe. Et quand on le frotte à une feuille, normalement, il est censé laisser des traces. Voilà, l'huile essentielle laisse des traces sur un papier. C'est comme ça qu'on peut déterminer un petit peu si notre huile est chargée en huile essentielle, en fait, et de toutes les molécules qui sont finalement bonnes pour la santé et pour le corps.
Ok, Bah, je te remercie. Et puis, bah, on attend peut-être une prochaine expo sur le sel, poivre et sel, du coup.
Ah bah, peut-être, mais c'est vrai que le sel, ça a déjà été démontré que c'était mauvais pour la santé. Là, c'est vrai que le poivre est un petit peu moins connu. Donc, peut-être sur une autre épice, le safran, le curcuma, pourquoi pas.
Ah bah voilà, ok. Eh bah, merci. Raphaël, bonjour. Et on est dans un bureau de vote.
Exactement. C'est une exposition qui s'intitule « Donner de la voix » et j'ai reconstitué un bureau de vote, mais un peu particulier.
Il y a une abeille, je pense, un chat, un chat avec un peignoir, et puis un pigeon en costume cravate, avec des petits oiseaux également. Bah, faut que tu nous expliques un petit peu. On va faire les différentes étapes, et puis tu vas nous expliquer tout ça.
Exactement. En fait, je voulais parler du vote et des méthodes de scrutin, mais d'une façon un peu fantaisiste. En plus, on a beaucoup parlé en ce moment d'élections, de vote. On est beaucoup allé voter. Et je pense aussi que quand on parle de candidats politiques, de partis politiques, on est tous un peu peut-être butés sur des opinions et donc potentiellement pas très ouverts à la discussion. Donc j'ai créé une élection fantaisiste, imaginaire, avec des animaux. Donc le visiteur choisit l'animal qu'il va incarner. Donc il peut être un escargot, un ver de terre ou encore un poisson rouge. Et il va voter, donc soit pour le pigeon, le chat ou l'abeille, en fonction de leur programme, de leurs mesures et donc de l'impact que ça aurait sur leur vie.
Quel animal allez-vous incarner ? Donc c'est des petites cartes, en fait, qui sont à disposition, c'est bien ça ? Du public ?
Donc par exemple, la première, là, c'est l'escargot. Donc si vous êtes un escargot, vous allez être assez en faveur du candidat pigeon, parce que ce candidat propose de saboter le réseau de ramassage des ordures des humains, et donc de mettre à disposition des animaux un grand nombre de déchets. Donc en tant qu'escargot, vous serez favorable à cet animal. Mais le chat est également un animal intéressant pour vous, puisqu'il a une mesure un petit peu électoraliste, disons, il protège tous les animaux rampants, et il supprime la taxe bave.
Ouais.
L'abeille aussi pourrait être de votre côté, puisque l'abeille veut le développement de l'espace naturel, et donc en tant qu'escargot qui aime la verdure, ça pourrait aussi vous convenir.
Et ouais, et du coup, je m'arrête sur la photo du chat, parce que j'en ai un, donc forcément. Le confort pour les animaux, garantie gamelle pleine, ouverture de la chasse sans restriction. Ouais, la gamelle pleine, ouais, bah oui.
Oui, en effet, donc là, vous avez plutôt les intérêts des animaux domestiques qui sont défendus. Donc, si vous êtes un chien ou une tortue domestique, par exemple, vous avez tout intérêt à voter pour le chat.
Et l'abeille, ben, forcément. Lutte contre l'artificialisation des sols et ben la défense des zones végétales, parce qu'on sait que ben les abeilles, elles sont un peu menacées aujourd'hui avec justement cette artificialisation.
Oui, donc voilà, le candidat un peu plus en faveur de la nature. Et donc là, vous avez par exemple l'escargot dont on parlait, il a beaucoup de candidats qui lui conviennent, mais il y a d'autres animaux qui vont beaucoup moins avoir de mesures en leur faveur, qui vont avoir du mal à trouver un candidat qui leur convient. Et donc ces animaux-là, quand ils vont pouvoir expérimenter les différentes méthodes de scrutin, ils vont pouvoir voir à quel point ils peuvent exprimer leur mécontentement, leur insatisfaction ou au contraire leur adhésion avec le programme des candidats.
C'est assez intéressant parce que du coup, on a tous des animaux. Bon, les pigeons, on les aime bien quand même, même si en ville, c'est pas toujours évident. Beaucoup de gens ont des chats. Les abeilles sont importantes. C'est difficile du coup de voter pour l'un de ces trois candidats.
Oui, et le but, c'est vraiment que vous vous mettez dans la peau de l'animal que vous incarnez. Donc, on essaye d'oublier un petit peu ce qu'on pense des animaux ou des candidats politiques en général et de se mettre dans la peau de notre animal avec les différents éléments pour sa survie. Donc, l'escargot, il a peur de se faire écraser en traversant la rue, il a envie d'avoir des poubelles ou des épluchures à manger. Et donc, c'est grâce à ces informations-là qu'on va pouvoir ensuite passer au vote.
Je vois aussi qu'il y a un petit écriteau. Combien avez-vous de pattes ? Alors, ça raconte quoi exactement, ça ?
Alors, c'est aussi un peu par l'absurde une façon de parler des scrutins non universels. Ah. Donc, les scrutins dans lesquels toute la population n'a pas forcément le droit à la parole. Donc là, on imagine que, par exemple, le vote pourrait être conditionné au nombre de pattes d'un animal. Ça nous paraît un peu absurde, mais en fait, on se souvient qu'il y a une époque où les femmes ne votaient pas, où les militaires ne votaient pas, ou alors le scrutin, par exemple, censitaire, où c'était conditionné à notre niveau d'impôt, donc à notre revenu. Du coup, ça nous paraît un peu absurde, mais ça a existé. Et puis aujourd'hui, par exemple, le vote réservé aux majeurs de plus de 18 ans, ça peut aussi poser question.
D'accord, bah les araignées, elles ont 8 pattes quand même, hein, donc du coup...
Elles auront beaucoup de poids dans la balance, en effet.
Ok, on va se déplacer un petit peu là pour aller juste... Alors là, il y a quelque chose qui m'intrigue également, c'est quoi
voilà, naturellement, une fois qu'on a récupéré notre carte d'électeur, on passe donc au vote, comme dans un bureau de vote, et on est face à 4 isoloirs. On a le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, c'est notre méthode actuelle de scrutin. Donc on peut l'expérimenter, en voir peut-être les failles, les faiblesses, et après tester d'autres méthodes alternatives. Donc on a le vote par approbation, le vote par classement et le jugement majoritaire.
Et tout ça après, ça termine dans une urne. Et vous en faites quoi après de tout ça?
Ensuite, moi j'ai comptabilisé en fait, en fonction des différents animaux électeurs, les résultats d'élection. Et ils sont présentés sur la télévision qui est là.
Donc, je ne vais pas demander aux personnes qui ont voté. Vous avez voté? Alors, vous avez... Alors, je ne vais pas vous demander pour qui vous avez voté. Mais comment vous trouvez cette exposition, justement?
Très bien.
Ouais. Qu'est-ce qui t'amuse? Enfin, qu'est-ce qui te... Enfin, qui te surprend, peut-être? Parce que tu ne fais pas trop de politique, toi, j'imagine.
Non.
Bah ouais. Et alors? Qu'est-ce qui t'intéresse, là, dans cette expo?
Bah, les chats, parce que j'aime bien, et aussi les explosions.
Bah voilà, bah on sait pour qui elle a voté. Bon, bah voilà. Bon, bah, ok. Et vous, madame, alors?
Et alors, le maire de terre voulait pas qu'on vote pour le chat.
Et vous, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition?
Alors moi, justement, je suis élue. Donc ça m'intéresse d'autant plus parce qu'au moins, on voit comment on peut voter différemment qu'au scrutin, en effet, majoritaire et à 2 tours. Donc c'est plutôt très intéressant. Mais c'est vrai que ça apporte des résultats très différents, en fait, en fonction du type de vote. Donc, c'est une bonne réflexion.
Et vous êtes élu dans le coin?
Je suis élu en mairie d'Arras. Ouais.
Ok, eh ben on verra pour les prochaines élections municipales alors. Hein.
C'est ça. Bon, là, je pense que. Hélas, nous resterons sur le classique. Hein, voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, donc, du coup, la suite. Alors, il y a le tirage au sort, peut-être, non? Ou je. Ouais, le tirage au sort. Alors, ça me fait marrer toujours, cette espèce de bingo, là.
Exactement. Donc, là, les visiteurs peuvent tourner la boule de loto. Et donc, sont mis dans la boule tous les personnages de l'élection, donc à la fois les candidats, mais aussi les électeurs. Donc, nous, en tant qu'escargot, on pourrait être élu alors qu'on ne s'est pas présenté. Et en fait, c'est une façon de parler du fait que les candidats, ça représente une petite partie de la population, pas forcément très représentative. Et donc, on pourrait aussi réfléchir à tirer au sort parmi la population dans son ensemble les gens qui gouvernent ou qui prennent des décisions pour le pays.
Ah, il y a des choses à faire, hein. Ça peut donner plein d'idées, hein, moi je trouve. Hein. Et puis après, là, donc, il y a l'urne avec tout ce que vous avez récolté. Il va y avoir un classement, un vote peut-être, qui va être élu?
Ben, à vrai dire, en fait, moi j'ai calculé un peu en anticipant la réponse des différents animaux pour calculer les résultats de l'élection. Donc dans cette télé là qui a 4 faces, on peut...
Alors, hop.
Observer les résultats de l'élection. Donc, avec le scrutin majoritaire uninominal, ce serait le chat qui serait élu d'une courte majorité. Par contre, si on vote par approbation, l'abeille passe devant. Au vote par classement, c'est le pigeon qui l'emporte, tout comme avec le jugement majoritaire. Donc, en fait, en changeant de méthode de scrutin, ben, on change le gagnant de l'élection, ce qui incite un petit peu quand même à réfléchir à ce qu'on veut comme méthode, puisque ça a un fort impact sur le choix du gagnant.
Et puis, ben, y a une dernière partie.
Oui, donc à la fin, je voulais quand même avoir le ressenti des visiteurs sur leur expérience et voir quelles étaient les méthodes préférées. Et donc, on a un petit système. Chaque visiteur peut prendre 10 petits jetons qui symbolisent en fait 10 points qu'il peut répartir comme il le souhaite en fonction des différents scrutins. Donc on voit qu'aujourd'hui, le jugement majoritaire a remporté beaucoup d'approbation, disons, devant le vote par approbation, puis le vote par classement, le tirage au sort et le jugement majoritaire uninominal, donc ce que nous utilisons, a malheureusement assez peu convaincu.
On pourrait imaginer éventuellement, en suivi de cette exposition, une pièce de théâtre avec un débat entre les animaux. Ce serait rigolo.
Mais c'est vrai que ça suscite beaucoup de questionnements parce que l'exposition ne donne pas vraiment de réponse. Elle est plutôt là pour faire réfléchir. Et donc c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une suite, de aussi permettre aux visiteurs de s'exprimer et d'aller un peu plus loin.
Reportage réalisé lors du Festival des Expositions qui s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'Hôtel de Guine d'Arras et mis en œuvre par des apprentis du Master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois.
So how far you ran, oh, when music came to life, you showed us how you dance. When all things came around, you saw how far you ran.